Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Louis. Cette semaine, j'ai découvert Claude Sauté. J'ai pas mal de lacunes en cinéma, et si je connaissais son nom, je n'avais jamais vu aucun film de ce réalisateur culte des années 70. Son film « Les choses de la vie » m'a bouleversée. « Les choses de la vie », c'est l'histoire de Pierre, un homme d'une quarantaine d'années, interprété par Michel Piccoli. Pierre est ce qu'on pourrait nommer un éternel insatisfait. Il a récemment quitté sa femme pour vivre une histoire d'amour avec Hélène, jouée par Romy Schneider, mais il ne sait plus très bien s'il a eu raison ou tort. Le film fait des allers-retours dans le temps, comme pour suivre les pensées contradictoires de son personnage. Les moments du passé sont filmés avec nostalgie, et dans ceux du présent, on sent le doute constant qui habite Pierre. En effet, après son coup de foudre pour Hélène, Pierre cède à l'impulsion et quitte tout pour elle, persuadé que c'est là que résidera son bonheur. Or, le quotidien prend le dessus, et la réalité n'est finalement pas à la hauteur de ce qu'il espérait. Pierre se met à idéaliser sa vie d'avant, jusqu'à envisager de quitter Hélène pour retourner avec son ex-femme. Seulement, quand ce désir est au point de se concrétiser, à nouveau, Pierre doute et regrette Hélène avant même de l'avoir quittée. Ainsi, un désir en chasse un autre, laissant Pierre hagard, dans un sentiment d'attente éternelle que la réalité ne parvient jamais à combler. J'ai aimé la façon dont la tragédie et la douceur se frôlent dans ce film, la justesse de ce personnage dont l'éternelle insatisfaction est finalement si humaine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le journaliste Jérôme Massella interroge ce décalage entre les attentes et la réalité. Pourquoi est-il si douloureux ? Et comment se fait-il qu'on fonde autant d'espoir sur nos attentes alors même qu'elles nous trahissent si souvent ? Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
En 2003, j'ai 18 ans, j'habite à côté de Nice et un week-end, je pars visiter Paris avec mes parents. Ça fait déjà 2 ou 3 ans que cette ville m'attire, et quelques mois plus tard, je quitte tout pour la capitale. Je m'installe dans le quartier de Belleville, et là, pour moi, à ce moment-là, tout devient possible. C'est un sentiment absolu, sans réserve. J'attends tout de cette ville, sans même la connaître. Et 19 ans plus tard, je chéris toujours ma ville, pour son mouvement, son effervescence. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mio Koshikawa est une youtubeuse japonaise.
Les Français sont des latins, ils peuvent parler fort.
Elle aussi vit à Paris. Dans cette vidéo, elle décrit un phénomène étrange, le syndrome de Paris.
Le syndrome de Paris est une dépression causée par le décalage entre le rêve que l'on a de Paris et la réalité. Aujourd'hui, voici 5 points que vous devez connaître avant de déménager pour éviter le syndrome de Paris. Tout d'abord, les citadins sont agressifs.
En 1986, le psychiatre Hiroaki Ota, rattaché aux urgences de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, est le premier à identifier ce mal dont souffrent de nombreux Japonais. À l'époque, le Japon connaît une forte croissance économique. En parallèle, l'attrait touristique pour la ville lumière est boosté par l'image glamour de la France, la publicité, les films de François Truffaut et plus tard Amélie Poulain. Selon le professeur Hiroaki Ota, à l'époque, toutes ces belles images parisiennes ont participé à créer chez les touristes japonais des attentes disproportionnées par rapport à la réalité de la ville. Alors pourquoi se fabrique-t-on des attentes aussi éloignées du réel ? Pourquoi est-il si douloureux de prendre conscience du fossé entre nos rêves et la réalité? Et comment faire pour être moins déçu? Pour comprendre, j'ai rencontré trois personnes qui ont une expérience particulièrement éclairante de ce choc, lorsque la réalité s'impose brutalement, suite à un très grand espoir.
Les images que j'avais, c'était des images de moi en train d'organiser des anniversaires pour mon enfant, de lui faire des gâteaux parce que j'adore faire de la pâtisserie. J'imaginais faire l'avion avec lui aussi, j'imaginais lui faire des guilis. Et c'était des sortes d'images très jolies, positives, colorées, comme ça, quoi.
Ce grand espoir, la journaliste Renée Grezard l'a vécu lors de sa première grossesse. Je l'ai rencontrée cet été au Festival de journalisme de Couthures-sur-Garonne, dans lequel elle participait à une table ronde sur le thème « Faut-il encore faire des enfants ?». Elle est l'autrice de « Choisir d'être mère, tout ce qu'on ne vous a pas dit sur la parentalité », paru en 2022 chez J.C. Lattès, où elle raconte d'abord les origines de son désir d'enfant.
Quand j'étais petite, j'avais une fascination pour la grossesse. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de magique dans le fait d'être enceinte. Notamment, j'avais une Barbie qui avait donc un ventre de femme enceinte et on pouvait enlever le ventre et il y avait un bébé. Et on pouvait remettre le couvercle, entre guillemets. Et j'étais vraiment fascinée par cette idée qu'un être humain pouvait produire un enfant. Et alors, cette fascination, ça m'a toujours suivie. Donc, en grandissant, en vieillissant, je me suis dit, mais c'est quand même fou ce truc, qu'on soit capable de faire ça.
À ce stade, Renée est fascinée par la maternité, mais ce n'est pas un désir qu'elle souhaite concrétiser tout de suite.
Et mon désir a été fluctuant, je dirais. Il y a des moments où je m'imaginais avec des enfants, d'autres où j'ai dit clairement à mes parents que j'en voudrais pas, parce que je voulais être une femme libre. Enfin voilà, j'ai lu Simone de Beauvoir assez tôt.
Mais un événement va tout chambouler.
Ma meilleure amie a eu un enfant. La première fois que je l'ai tenue contre moi, c'était un petit crapaud. Enfin, je sais pas comment expliquer, j'ai eu un amour immédiat pour cet enfant, quoi. Donc, j'ai voulu être mère aussi, je crois, après Anne. Ça m'a contaminée. J'avais 27 ans. D'un seul coup, je me suis mise à demander tous les jours à mon compagnon de l'époque, quand est-ce qu'on fait un enfant, quand est-ce qu'on fait un enfant, tous les jours. Ça me rongeait, quoi. C'était hyper fort. L'idée que mon ventre reste vide devenait très désagréable. Je regardais les femmes enceintes dans la rue avec envie, avec jalousie. J'avais quelque chose où je me disais que j'étais une mauvaise élève, que j'arrivais pas à tomber enceinte là où d'autres y arrivaient.
Renée réussit à être enceinte au bout de plusieurs mois. Son attente est comblée, mais laisse place à de nouveaux doutes.
J'étais enceinte de 6 mois et on écoutait la radio avec le père de mon fils. Et je sais plus qui c'était, peut-être Vincent Delerme. Il parle de la parentalité et il dit « Ben voilà, en fait, on était deux et puis on devient trois et plus rien ne sera jamais comme avant. » Et on était, je crois, en train de couper des poireaux avec Julien. J'ai pris conscience, ça m'a traversé, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'on a fait ?» Parce qu'on était très amoureux, on était un couple qui dansait dans la rue, on s'amusait beaucoup tous les deux, on faisait la fête. Et je me suis dit « Mais en fait, on s'est regardé un peu gêné. » Et je me suis dit « Il va se passer un truc entre nous deux, on ne sait pas ce qui va nous arriver. » Là, ça m'a... Il y a eu un électrochoc.
Et ce coup de tonnerre, cette révélation, va se préciser après la naissance de son fils, Ulysse.
Quand on est une femme enceinte, on est une sorte de boule de cristal. Tout le monde autour de nous prend très soin de nous. On nous regarde comme si on était un tableau de Botticelli en permanence. Et là, d'un seul coup, en fait, il n'y a plus de soins. Et notamment, moi, je me souviens d'avoir appelé une puéricultrice pendant la nuit parce que je n'arrivais pas à changer la couche d'Ulysse. Et elle m'avait dit va falloir apprendre. Hein. Et elle m'avait engueulée, quoi. Alors que j'étais vraiment dans un état physique où je pouvais à peine me lever et c'était compliqué. Et donc, c'est vrai que j'ai eu ce choc à ce moment-là. Effectivement, on passe du tout soin au pas grand-chose, quoi. Voilà.
Et à la fin du congé paternité accordé à son mari, Renée prend soudain la réalité de plein fouet.
Là, la dégringolade a commencé. Je me suis retrouvée toute seule, en fait. J'avais un bébé qui pleurait tout le temps, je pouvais pas... En fait, c'est ce que racontent beaucoup de femmes qui sont en congé maternité. On se retrouve avec un bébé qui pleure tout le temps, on pleure soi-même face au bébé qui pleure, on peut pas se faire à manger, parfois on n'arrive pas à prendre de douche de la journée parce qu'on est complètement débordé, submergé. Quand on allaite, ça peut être difficile, au point que moi, j'avais les tétons qui saignaient. Et j'ai appelé la maternité, on m'a dit « il faut les remettre dans la bouche de votre fils si vous voulez continuer l'allaitement ». Je me suis retrouvée là avec mon sein plein de sang, douloureux.
Là, on n'est plus dans les images d'organisation d'anniversaire, de pâtisserie ou de faire l'avion avec son enfant. Mais cette désillusion à la naissance d'Ulysse, Renée me raconte qu'elle l'a vécue seule.
Donc la dégringolade a commencé là aussi parce que du coup, mon mari, Julien, lui, il allait au travail. Et en fait, il y a eu une déconnexion entre lui et moi. On n'était plus dans les mêmes mondes. C'est-à-dire que celui qui reste à la maison avec le bébé se dit « Ah bah super, il va au travail, tranquille la vie, vive les vacances. » Parce que le travail, ça devient les vacances. Et la personne qui va au travail se dit « Bah, trop bien, elle a vraiment beaucoup de chance quand même. Elle reste toute la journée avec le bébé, tranquille ou bilou. Pendant que moi, je suis en train de me faire chier à mon boulot, elle pouponne. » Il y a du fantasme des deux côtés. Et en fait, quand il y a du fantasme des deux côtés, mais que c'est pas un fantasme ensemble, en général, ça sépare un petit peu. Donc nous, en fait, on a je pense qu'on a commencé à se séparer en fait à ce moment-là. C'est-à-dire que je pense qu'on se comprenait plus.
Quand René parle de fantasme des deux côtés, elle veut dire que dans sa tête, à ce moment-là, son mari est en vacances au travail. Tandis que Julien, lui, pense qu'elle se la coule douce avec Ulysse.
Je me rappelle d'un jour où il m'a appelé parce que des gens venaient manger à la maison le soir en me demandant de cuisiner un bœuf bourguignon. J'ai réalisé à ce moment-là combien on était déconnectés. C'est-à-dire que j'ai été choquée de me dire, en fait... Il ne sait pas où tu es, il ne comprend pas tes journées-là. Toi, tu es en train de vivre un truc où tu n'as pas le temps de te faire un œuf, c'est compliqué. Et lui, il t'appelle en te demandant ça. Et je ne lui en voulais même pas parce que je voyais bien que le dialogue était rompu, en fait. C'est-à-dire qu'il ne le faisait pas exprès, hein. C'est juste qu'on était dans des mondes différents. Et ça a continué, en fait, à déraper, quoi. Et voilà, on s'est perdu.
Si les ouvrages de puériculture ne manquent pas, ils sont bien peu nombreux à donner une image réaliste du tsunami émotionnel que signifie réellement devenir parent. Et c'est exactement pourquoi René a écrit son livre « Choisir d'être mère », pour que les futurs parents puissent se forger des attentes rationnelles sur la parentalité. Mais même si René avait eu accès, durant sa grossesse, à toutes les infos qu'elle donne dans son livre, un autre obstacle se serait peut-être dressé sur son chemin. Selon une équipe de recherche en sciences cognitives de la University College London, environ 80% de la population souffrirait d'un biais cognitif particulier, le biais d'optimisme. La neuroscientifique britannique Tali Charrott a démontré en 2011 comment le cerveau a tendance à minimiser les risques et les contraintes à venir pour se concentrer sur les bonnes nouvelles. Une forme de déni de réalité, donc, qui peut nous faire croire que, pour nous, ça va bien se passer. Comme lorsqu'on voit les inscriptions « fumées tuent » et les images atroces de poumons calcinés sur les paquets de cigarettes, mais qu'on croit tous que ça n'arrivera qu'aux autres. Donc, je ne sais pas quelle est la place du biais d'optimisme dans le couple de René et Julien. Mais en écoutant René, je me rends compte du défi que représente la réalité de la parentalité.
La parentalité, c'est une sorte de choc de réalité, quoi. On pensait qu'on était des personnes qu'on n'était pas, je crois. Ce qui est un classique, hein, de la rupture. Mais en fait, nous, c'est la parentalité qui l'a révélé. C'est-à-dire que d'un seul coup, moi, j'ai vu des choses de lui, et lui a vu des choses de moi qui ne nous convenaient pas, en fait. Et ça, c'est arrivé avec la parentalité. Effectivement, je suis quelqu'un qui fantasme beaucoup. Mon monde, c'est Jacques Demy. Et ben, j'ai découvert qu'il y avait un principe de réalité. Et j'ai travaillé sur ça. Sans pour autant se priver de la rêverie, qui est quelque chose qui me constitue personnellement et que je trouve assez important.
Alors je me demande, pourquoi est-ce qu'on fonde autant d'espoir sur des rêves qui, par définition, peuvent nous trahir ? Et s'il y a un lieu où il en faut de l'espoir, c'est au Festival d'Avignon, l'été, la plus grande manifestation théâtrale au monde. Des milliers de comédiens se partagent plus de 1500 pièces présentées au public. C'est le lieu de tous les possibles, où les producteurs repèrent les comédiens, où les programmateurs repèrent les pièces. C'est là où tous les rêves des comédiens côtoient la réalité la plus sévère et le risque de la désillusion.
J'avais très jeune une personnalité un peu fofolle, pas vraiment adaptée à l'école. J'étais un petit peu pas très heureux et puis là, j'ai trouvé un endroit où je pouvais l'être.
Cette personne que vous venez d'entendre, c'est le comédien Guillaume Santou. Depuis 20 ans, il joue au théâtre et à la télévision. En 2017, il remporte le Molière de la révélation masculine pour son rôle d'Edmond Rostand dans la pièce Edmond. Guillaume a donc connu le succès, et pourtant l'insatisfaction ne l'a jamais quitté. Comme René Grezard qui jouait avec sa Barbie enceinte, les attentes de Guillaume se sont construites dès l'enfance.
J'avais 10 ans et demi, mes parents divorcent à ce moment-là, la fin d'année de 5e est un petit peu difficile. Je vais chez mon oncle et ma tante dans le sud pendant une semaine. Ma tante organise un festival de théâtre à Grasse et a l'idée de me faire participer. Et donc je rentre dans la salle et je me retrouve donc sur scène. D'un coup, j'ai le sentiment d'avoir enfin trouvé l'endroit où je pouvais être moi.
Très jeune, Guillaume trouve sa voix, sa passion, le théâtre, dans lequel il va mettre toute son énergie pour devenir comédien professionnel.
Ma vie a été tracée, c'était fait. J'allais faire ça.
J'allais faire ça. Quand Guillaume me déclare sa détermination sans l'ombre d'un doute, ça me rappelle exactement mon attirance absolue pour Paris, adolescent. Ma vie serait là-bas. C'est à la fois un désir vital et un moteur. Ça s'impose comme une évidence. À ce moment-là, il y met tout son cœur, car il a besoin d'y croire. Cette carrière dont il rêve est pour lui. Et Guillaume se donne effectivement les moyens d'y accéder. Il intègre un cours de théâtre et à 26 ans, il se jette à l'eau. Il crée un duo comique avec son ami d'enfance, Cyril Garnier, lui aussi comédien.
J'étais plus, entre guillemets, un peu rassuré de ce qu'on m'avait fait croire de mon talent et je pensais que les choses allaient arriver. Lui avait le sens de l'entreprise et le goût du risque et donc c'est lui qui a lancé l'idée qu'on écrive une pièce, sauf qu'on ne savait pas écrire et donc on a contacté une autrice, la seule qu'on connaissait. Elle devait être co-auteur, elle a fini rôle principal de la pièce. On s'est fait balader dans tous les sens. C'était l'argent de Cyril, qu'il avait eu la chance de toucher d'un héritage, mais tout de même. On a galéré à jouer dans une salle dans le 10e arrondissement avec pas un rat. Et c'était pas simple. Sur le moment, en fait, le sentiment qui me vient, c'est la honte de ne pas avoir le pouvoir, le talent de faire ce que je veux faire comme je veux le faire. Et de réaliser que la route va être très longue. Ça, oui. Là, j'ai compris que, oula, je ne suis pas... Intérieurement, je me crois à un endroit, mais en fait, la réalité me ramène à un autre endroit. J'y suis pas encore, quoi. Là, c'était un bon retour sur Terre, une bonne petite claque, et voilà. Et du coup, on se réveille, et tant mieux.
Alors, quand on construit ses désirs et ses rêves, comment le cerveau s'arrange avec le principe de réalité ?
Bah, c'est un mécanisme de défense, c'est un mécanisme de déni, c'est aussi le fait qu'à un moment donné, il faut vivre ses propres expériences.
Pascal Anger est psychologue à Paris.
Et puis, on a l'impression qu'on va être le grand gagnant de cette histoire. Donc, en se disant, bah, je vais être un personnage connu ou je vais gagner beaucoup d'argent, etc., etc., tout ça fait qu'à un moment donné, on peut mettre à profit, bah, c'est pas que du négatif, on peut mettre à profit, en fait, ce fantasme ou cette idée. Mais à condition qu'il y ait derrière du travail, encore une fois, et qu'il y ait de la recherche et qu'il n'y ait pas que de... comme si c'était de la magie.
Et c'est ce qui se passe pour Guillaume. Son rêve abstrait de comédie se transforme en acharnement bien concret.
On a fait nos armes en café-théâtre, à galérer dans des salles de 40 places avec seulement 5 spectateurs, entrée gratuite, participation au chapeau, et puis on se fait connaître dans le milieu du café-théâtre, on fait des festivals en province, on remplit des salles de province parce que c'est plus facile qu'à Paris, mais pas de producteurs, pas beaucoup d'argent, des boulots à côté, ça galère quand même un peu. La même semaine, le théâtre nous avait ouvert ses portes. On se retrouvait avec Arthur Jugnot dans une pièce mise en scène par Jean-Luc Moreau au Théâtre de la Michaudière. Et la même semaine de cette première au théâtre, Laurent Ruquier ouvrait les vannes de l'émission de Demande qu'à en rire dans laquelle on allait faire des sketchs toutes les semaines. Donc l'année de mes 30 ans à peu près, ça a été l'opposé des 10 ans auparavant.
C'est là que Guillaume concrétise son rêve. L'année de ses 30 ans, c'est le jackpot.
C'était une ambiance absolument géniale. Le public était présent avec une fidélité hallucinante. C'est pas d'être connu sur le côté « Ah, je suis quelqu'un d'important », c'est en fait, t'es là genre « Ah, il y a des gens qui s'excusent de venir vous voir et qui vous disent « Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais c'est de l'amour qu'on te donne, donc non, pardon, c'est une fontaine de bonheur, ça, c'est absolument génial. »
Après 10 ans de galère, Guillaume a le bonheur à portée de main. Il vit exactement ce dont il rêvait. Et là, il se passe quelque chose qui me fascine. Il n'est toujours pas satisfait. Ses désirs sont remplacés par d'autres, et avec eux de nouveaux doutes, de nouvelles peurs.
Les peurs qui me viennent vraiment, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas vraiment honnêtement profité de tout ce qui se passait, c'est que j'ai des aspirations plus profondes, plus sérieuses, plus passionnantes que simplement du sketch et de la comédie. Et j'avais peur d'un coup que mes souhaits soient un petit peu limités, et que si ma vie devait se limiter à ce formidable succès, il allait manquer une grosse pièce au puzzle et que j'allais pas être heureux.
Pourquoi, alors qu'on désire profondément quelque chose au point d'y consacrer sa vie, l'objet désiré perd parfois de sa saveur une fois obtenu ?
Quand on est dans le prix, dans la réalité, on se dit « mais au fond, ce n'est que ça ». Par exemple, je vois des personnes qui passent une thèse et qui, au moment de l'obtention de la thèse, vont tomber dans une grande déprime, une grande dépression même, parce qu'ils se disent « mais au fond, ce n'est que ça ». Ils l'ont obtenu, avec parfois des mentions, et ils se disent « mais c'est quoi ça ?» Au fond, C'est pas un objet matériel, c'est pas quelque chose qui tienne dans leurs mains, c'est quelque chose qui les dépasse et qui les surpasse. Et c'est là où ils se retrouvent un peu avec la douche froide en disant bah, « j'ai ce papier, mais maintenant, tout reste à faire ».
Qu'est-ce que vous répondez à ces thésards déçus ?
Je leur réponds que peut-être que c'est bien que justement ils puissent être déçus parce que c'est ce qui va leur permettre aussi à un moment donné de pouvoir aller plus loin parce qu'il y a un moment où il va falloir justement accepter cette désillusion mais pour pouvoir justement aller vers d'autres voies, d'autres issues et ne pas justement s'enfermer dans cette impasse. Parce que parfois ils peuvent s'enfermer dans cette impasse et se dire bah, j'ai ma thèse et puis il n'y a plus rien après. Si, il y a des choses après, il y a la vie, il y a d'autres choses que je vais aimer, qu'on peut expérimenter.
Si je comprends bien, la concrétisation d'un projet et la désillusion qui s'ensuit parfois peuvent nous permettre de renouveler nos objectifs. Comme une quête qui s'actualise en fonction de nos accomplissements et de nos nouvelles attentes. Un peu comme la frustration d'un sportif qui cherche toujours à battre son dernier record. Cette frustration, issue du décalage entre leurs attentes et la réalité, René et Guillaume en ont tous deux tiré des apprentissages différents. Je vous propose de les retrouver après ces quelques secondes de pause.
Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode « Nos rêves sont-ils toujours mieux que la réalité ?» Bienvenue dans Émotion.
Juste avant la pause, Guillaume Santou, le comédien, m'a raconté ses premiers succès à la télévision, puis ses déceptions, qui ont créé chez lui d'autres désirs pour des rôles plus profonds, plus sérieux, plus passionnants, comme il dit. Et à ce moment-là, sa carrière prend un tournant radical.
Me voilà... au Théâtre des Béliers parisiens, soutenir des copains, dont Cyril Garnier et Alexis Michalik, qui est dans la salle, parce que nous avons beaucoup d'amis en commun. Et là, il se tourne et il me dit bonjour d'une manière un petit peu plus intéressée que d'habitude. Je me dis, oh tiens. Et après la pièce, il vient me voir et il me propose cette pièce, qui est le même principe que Shakespeare in Love, mais avec Cyrano de Bergerac, et il cherche son Edmond Rostand. Et je fais donc, waouh.
Edmond, personne ne te connaît. Tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce. Champagne !
On ne peut pas monter Cyrano en 3 semaines !
Molière a monté Tartuffe en 8 jours.
C'était merveilleux. Se retrouver... quand on fait 1m70 et gringalet comme moi, on ne se dit pas qu'on va jouer Cyrano un jour. Mais du coup, d'avoir des vers de Cyrano à se mettre dans la bouche et de raconter les prémices de cet auteur qui galère et qui souffre... enfin bref, non, c'était un cadeau du ciel.
Guillaume participe au lancement de la pièce Edmond. Écrite et mise en scène par Alexis Michalik, l'une des plus prometteuses de l'année.
Tout va bien se passer, répète Edmond.
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 Le Palais Royal était très enthousiaste, c'est un théâtre de 800 places et on se retrouve avec une première, c'était absolument invraisemblable ce qu'on a vécu. Cette salle qui, comme un seul homme, s'est levée la vague d'applaudissements qu'on s'est pris dans la face. Enfin, on ne s'attendait pas à un succès comme ça. Le Edmond, pour le Palais Royal, c'est un triomphe comme ça, c'est 2 fois par siècle. Le dernier, c'était La Cage aux Folles. Et donc, on se retrouve avec une situation exceptionnelle, blindé à craquer tous les soirs, un public unanime tous les soirs. Et puis, nomination Molière, révélation masculine. Et
Molière est attribué à...
Guillaume Santou,
Molière de la révélation masculine pour la plus belle moustache de la soirée, à Guillaume Santou pour son rôle d'Edmond dans la pièce d'Alexis Michalik. Il tente le rôle d'Edmond Rostand, jeune auteur se débattant entre ambition sociale et artistique.
On a joué 250 dates à Paris la première année. Et le spectacle a été un tel triomphe normalement, une tournée d'une pièce qui marche bien, c'est 50-60 dates. Nous, on est parti pour 170 dates l'année suivante. Pendant qu'une deuxième équipe continue à jouer à guichet fermé, Edmond à Paris. Donc on est devant un truc historique.
Là, c'est plus le jackpot, c'est le super jackpot. Logiquement et honnêtement, toutes les attentes de Guillaume ont été comblées. Il peut difficilement demander plus qu'être le premier rôle dans le plus grand succès théâtral de la décennie. Mais comme l'écrit Oscar Wilde, il n'y a que 2 tragédies dans la vie. L'une est de ne pas avoir ce qu'on désire, l'autre est de l'obtenir.
Et oui, en fait, c'est toujours l'obsession du présent. Profite tant que c'est là, profite tant que c'est là. Mais dès la première, je sais qu'à un moment, ça va s'arrêter. T'as connu ça, beaucoup n'ont pas connu ça. Mais dommage, t'as connu ça. Ça va être dur après.
Et telle l'inaccessible étoile dans la chanson « La quête » de Jacques Brel, le désir de Guillaume semble se focaliser sur ce qui lui échappe.
Après Edmond et le succès d'Edmond et le Molière d'Edmond, sachant que Alexis a porté son désir sur une toute autre équipe pour faire son film, et ça c'est son droit le plus absolu, il n'y a aucune rancœur entre nous, et je comprends bien, mais sur le moment, ça a été extrêmement compliqué pour moi. Paris était placardé avec les affiches du film, je ne pouvais pas faire 2 mètres dans la rue sans qu'on me dise « pourquoi vous n'êtes pas dans le film ?» En fait, de vivre ça, je voulais faire mon deuil un peu tranquille, mais comme tout le monde ne me parlait plus que de ça, c'est-à-dire du gars qui faisait Edmond, je suis devenu le gars qui n'a pas fait le film. Voilà.
Passer du Molière au gars qui n'a pas fait le film, c'est sûr que c'est rude. Pascal Anger, psychologue, m'explique comment rebondir après cette grosse désillusion.
Là où on lui a donné peut-être de l'espoir, où il s'est donné un espoir, l'espoir est déçu et du coup, il vit comme une déchéance. Mais il ne faut pas oublier que s'il a été bon dans cette pièce et qu'on l'a reconnu, que ses pairs l'ont reconnu, ils le reconnaîtront aussi dans d'autres pièces. Après, c'est se battre justement pour d'autres rôles, pour d'autres envies et d'autres ambitions. Et je crois qu'il il ne faut pas qu'il perde espoir. Et ce qui est important, c'est de justement ne pas perdre espoir.
Ne pas perdre espoir, malgré le risque de désillusion. C'est l'idée que défendait au XVIIe siècle le philosophe néerlandais Baruch Spinoza, qui parle d'éthique du désir dans son ouvrage « L'éthique ». Il oppose un désir vertueux et encourageant, basé sur des objectifs concrets, à un désir aveugle et contre-productif, basé sur des objectifs inatteignables. Par exemple, être connu ou aimé n'est pas un objectif concret et atteignable. Mais être comédien de théâtre ou vouloir jouer dans un certain registre de pièces sont des objectifs plus raisonnables. Ça me rappelle ces beaux livres de photographie du style « Les 100 plus beaux voyages à faire dans sa vie », qui semblent plus destinés à faire rêver qu'à voyager pour de vrai. Ce que ces bouquins réveillent chez nous, c'est le désir abstrait d'évasion et non un projet de voyage concret. Pour Spinoza, tant qu'on reste animé par des désirs contre-productifs, on est condamné à la frustration. Et c'est exactement ce que Guillaume a vécu.
Là, le côté genre « tout ça pour ça » m'a un petit peu submergé. Et oui, de changer de carrière et de n'être plus que auteur, ça m'a traversé l'esprit parce que là, pour le coup, c'était trop dur. Et je réalisais, malgré les moments de joie extraordinaires que j'avais pu vivre, que fondamentalement, en 20 ans, ça ne m'a jamais vraiment rendu heureux.
Donc là, à ce moment-là, tout est noir.
Tout est un peu dégueulasse.
L'énorme carton d'Edmond dans lequel Guillaume jouait le premier rôle n'a pas suffi à le rendre fondamentalement heureux. Et son Molière non plus. Alors, pour tenter de le toucher du doigt, ce bonheur, il y a un moyen très communément cité, la richesse. Et ce qui est intéressant dans ce rêve de bonheur, c'est que l'idée de richesse est propre à chacun. Pour m'en rendre compte, j'ai demandé à des passants combien ils aimeraient gagner, s'ils en avaient le pouvoir, pour de vrai. Et que feraient-ils de tout cet argent, concrètement ?
10 000, 20 000, 5 000, tout est bon à prendre, hein, de façon à faire profiter la petite famille.
Le maximum, 220 millions d'euros. Dans un premier temps, je pense que ce serait pour réaliser des projets professionnels. Et dans un second temps, faire plaisir à la famille et la mettre à l'abri.
1 million ou même 500 000 pour renflouer la pauvre retraite qui se traîne derrière et être un peu tranquille, quoi, voyager un tout petit peu.
Nous avons un millionnaire tous les deux jours, donc nous recevons des gagnants grattage, des gagnants kéno, des gagnants loto, des gagnants euro-millions et des gagnants loto-foot.
Isabelle Césari est responsable de l'expérience grand gagnant à la Française des Jeux. C'est elle qui remet les ordres de virement au nouveau millionnaire, ce papier qui matérialise tous les changements à venir. Elle me reçoit dans le salon des grands gagnants au siège du groupe à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. C'est une pièce feutrée où trône un immense canapé que l'équipe appelle le canapé du bonheur. Pour y être invité, il faut avoir gagné au moins 1 million d'euros. Ou bien interviewer Isabelle Césari.
Quand on s'imagine gagner, c'est vrai que souvent on se projette avec plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est ce qui est dans le fantasme absolu. Et puis lorsque l'on remporte un gain, en réalité beaucoup de gagnants nous confient que au-delà de 100 000 euros, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à se représenter. Ils s'imaginaient, voilà, je jouais pour gagner évidemment, mais J'imaginais gagner 30 000, 50 000, allez, jusqu'à 100 000 euros. Mais au-delà, c'est quelque chose en fait qu'ils ont beaucoup de mal à se représenter.
Isabelle Césari est aux premières loges de ce moment précis, où la réalité dépasse le fantasme, où les gens qui ont gagné s'apprêtent à prendre conscience du fossé entre la vie de millionnaire qu'ils imaginaient et la réalité.
Je fais ce métier depuis 5 ans et le plus gros gain que j'ai remis, c'était un gain de 220 millions d'euros qui a été remporté en Polynésie française en octobre dernier, qui était un gain à l'euro million.
Elle me raconte comment réagissent ces grands gagnants au moment de leur tout premier contact, quand ils se déclarent par téléphone, avant d'être accueillis dans le salon quelques jours plus tard.
Toutes les réactions sont différentes. En réalité, il n'y a pas fondamentalement de corrélation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des manifestations de joie très intenses pour des gains de 500 000 euros ou 1 million d'euros, des réactions beaucoup plus mesurées et plus pudiques pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Il y a une chose que l'on retrouve assez fréquemment, c'est la sidération. Elle est marquée par trois éléments. C'est le côté intense, le côté inattendu et le côté inconnu. Donc, la sidération va pendant un temps anesthésier un petit peu la personne. C'est une réaction physiologique qui est tout à fait normale, qui est naturelle et qui est très passagère.
Selon le dictionnaire de la psychiatrie des éditions CILF, la sidération est un état de stupeur émotive dans lequel le sujet, figé, inerte, donne l'impression d'une perte de connaissance. C'est-à-dire que pendant la sidération, l'information n'est pas intégrée.
Pour certains, elle est presque imperceptible parce qu'elle va vraiment durer très 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 peu de temps. Mais pour d'autres, elle va durer peut-être quelques jours. Donc ça, c'est une réaction qui est tout à fait naturelle et que quasiment tous les gagnants connaissent. C'est très normal.
Les gains supérieurs à 1 million d'euros sont remis obligatoirement au siège de la Française des Jeux à Boulogne après que les gagnants se soient déclarés.
Souvent, lorsque quelques jours après, nous les recevons, ici, dans le salon des grands gagnants, la nouvelle a été intégrée. Donc là, on passe vraiment à une autre phase qui est qu'on commence tout doucement à toucher du doigt et à savourer l'étendue et le champ des possibles qui s'offrent à eux. Sachant que ce processus, il est assez long et ce qui est formidable, c'est qu'en fait, il passe par tous les stades, d'abord du plaisir qui glisse vers le bonheur. Si tant est que le bonheur existe vraiment, mais en tout cas de bien-être, de plénitude, qui est conscientisé, qui est construit dans le temps.
On a vu à quel point il avait été difficile pour René et Guillaume de gérer leurs désillusions. Mais à l'inverse, quand le réel dépasse toutes nos attentes, est-on enfin vraiment satisfait ? Ou est-ce finalement aussi quelque chose de difficile à gérer ?
Souvent, lorsqu'on se projette, qu'on est dans le fantasme, dans le désir, dans le rêve, ce qui est déjà un plaisir à part entière, hein, d'ailleurs. On a l'impression que le bonheur, peut-être, est lié à la possession, à l'avoir. En réalité, lorsque les gagnants donc, remportent leurs gains, les réalisations sont davantage dans l'être que dans l'avoir. C'est-à-dire que ce dont ils se rendent compte, c'est que la liberté, le temps, la sérénité. Tout ça, c'est quelque chose qu'ils ont acquis grâce au gain. Et en fait, c'est ça qui fait le bonheur.
Mais quand on gagne autant, cette liberté peut sembler vertigineuse. Ainsi, la Française des Jeux propose à ses grands gagnants un accompagnement pour profiter de ce gain dans la réalité.
L'accompagnement que nous proposons, il est gratuit et il est facultatif pour une durée de 5 ans. Et il couvre des thématiques assez larges. Au premier chef, la gestion patrimoniale et notariale, parce que ce sont des éléments techniques. Et puis, nous avons aussi des ateliers sur l'accompagnement du changement. Donc, on a notamment des coachs, des sociologues qui peuvent intervenir pour amener les gagnants à s'interroger, à réfléchir, par exemple, à la différence entre la satisfaction et la motivation. Parce que nous avons, par exemple, beaucoup de gagnants qui entreprennent des reconversions professionnelles. C'est très, très fréquent. Avant de gagner, on imagine qu'on arrêtera de travailler. Quand on gagne, ça ne se passe pas forcément toujours de cette manière-là. On va pouvoir avoir la chance d'aller vers un métier qui est peut-être moins rémunérateur, mais qui est un métier passion.
C'est là qu'on voit que le gain, si gros soit-il, ne suffit pas. Même quand nos désirs les plus ultimes sont comblés, ça ne suffit pas en soi. Comme Guillaume, le comédien qui reste insatisfait malgré les centaines de représentations à guichet fermé de la pièce Edmond et son Molière de la révélation masculine en 2017. Il faut faire de nos désirs quelque chose de concret. Pour l'illustrer, Isabelle Césari a demandé à quelques gagnants d'expliquer comment ils ont adapté leurs attentes à la réalité.
Avant de gagner, je voulais aider ma famille. Changer de voiture, acheter la maison de mes rêves avec une piscine, arrêter de travailler et faire le tour du monde. Je m'imaginais aux commandes de mon hélicoptère pour aller partout au gré de mes envies. Après avoir gagné, j'ai aidé ma famille. Je n'ai pas construit la maison de mes rêves, j'ai acheté un appartement, mais proche de mes parents, de mes amis. Je m'offre des thalassos et quelques restaurants. Et puis, je n'ai pas pu apprendre à piloter un hélicoptère parce qu'il n'y avait pas de cours à côté de chez moi. Ma vie est plus facile, j'ai gagné en tranquillité d'esprit et beaucoup, beaucoup de liberté.
Ainsi, la réalité sera toujours différente de nos attentes. Pour cette personne, la maison de ses rêves a été remplacée par des thalassos et quelques restaurants. Et en réalité, elle a surtout gagné de la liberté et beaucoup de temps. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'empêcher de rêver, selon Isabelle Césari.
Quand on s'imagine gagner et qu'on est donc dans la phase de rêve, de fantasme, c'est vrai qu'il peut y avoir des souhaits de s'acheter des voitures de sport, des maisons luxueuses. Le propre du fantasme, du rêve, c'est qu'il ne se confronte pas aux contraintes de la réalité. Mais quand on arrive dans la réalité et quand on se pose, puisque c'est nous le point de repère qu'on donne à nos gagnants, c'est surtout de prendre le temps de la réflexion, eh bien, finalement, on se rend compte que le bonheur, il est peut-être bien ailleurs. Et puis, qu'on est confronté, justement, au principe de réalité qui fait qu'en réalité, ce qu'on avait imaginé rêver, à l'instant T, on n'en a plus vraiment envie. Et puis aussi parce que là, ça devient accessible. Donc, il y a d'autres envies qui naissent.
Mais alors, comment décririez-vous ce que vous apportez aux gagnants ?
C'est un gain immatériel, en réalité, qui est remporté. C'est-à-dire de la liberté, du temps pour soi, de la sérénité, de la confiance en soi. Et c'est ça le plus important.
On ne peut pas être uniquement dans le fantasme, ni uniquement dans la froideur du réel. C'est un ajustement perpétuel, et parfois douloureux, entre nos désirs et la réalité. Dans tous les témoignages que j'ai écoutés, d'attentes trop fortes, de réalité brutale, il y a toujours l'alchimie des désirs et du réel. Il y a toujours l'idée qu'il faut les deux. Parce que pour en arriver à être déçu, il faut bien avoir désiré et être passé à l'action. Ce qui est déjà un succès en soi. C'est ce que m'explique le psychologue Pascal Anger, qu'il faut les deux.
C'est important d'être dans un principe de réalité. C'est ce qui va nous permettre d'avoir les pieds sur terre aussi. Après, c'est important aussi d'avoir un imaginaire, d'avoir de l'espoir, d'avoir des désillusions, d'avoir des échecs, d'oser. Parce que c'est tout ça qui va faire notre vie et qui va faire aussi qu'on se dépasse et qu'on se surpasse. Si on n'est pas justement dans de la folie un peu qui nous permette justement d'aller vers un ailleurs, la vie est bien triste.
René Grezard confirme. Sa désillusion après la naissance d'Ulysse ne l'a pas empêché de continuer à rêver.
Alors aujourd'hui, Ulysse a 7 ans. Moi, je suis enceinte de 8 mois d'un autre homme, donc Clément, dont je suis tombée amoureuse il y a bientôt 3 ans. Et je n'ai plus beaucoup de place au fantasme. J'ai quelques images en tête de ce que va être notre parentalité, mais honnêtement, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais pour Ulysse, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, c'est la petite maison dans la prairie. Et de l'autre, c'est la grosse galère, quoi. Mais on attend cet enfant avec impatience. Moi, je l'aime déjà. Je pense que c'est un amour qui est plus réel, en fait, qui est plus ancré dans le réel. C'est-à-dire que cet enfant, je l'aime d'une manière rationnelle. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, c'est moins un délire de je vais lui faire des gâteaux, quoi. Oui, un enfant, c'est pas facile. Et oui, ça dévore. Mais derrière, il y a une dose de joie qui est immense. Et c'est pour ça que j'y retourne.
Depuis que je les ai rencontrés pour cet épisode, René continue de s'épanouir dans la maternité, Guillaume joue toujours au théâtre, Isabelle Césari accueille toujours un millionnaire tous les deux jours dans le salon des grands gagnants. Et moi, en les écoutant, j'ai compris que pour être serein, vis-à-vis de ce fossé constant entre nos rêves et le réel, il faut embrasser notre biais d'optimisme. Nos attentes et le principe de réalité c'est une alchimie complexe qu'il appartient à chacun d'ajuster selon son rapport au monde. Comme René Grezard et Guillaume Santou qui conservent leurs attentes, en construisent de nouvelles et les font coexister avec la réalité. René dans sa nouvelle maternité, Guillaume dans sa carrière de comédien. Alors si vous rêvez d'acheter un appartement, de partir en voyage à l'autre bout du monde ou de poursuivre une carrière de cosmonaute, pensez à Spinoza. Laissez les désirs éthiques, les désirs raisonnables s'exalter. Mais ne soyez pas trop raisonnable non plus. Comme le disait Pascal Anger, il est tout aussi important de continuer à rêver. Mais raisonnablement. Mais à rêver quand même.
Vous venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par le journaliste Jérôme Massella et réalisé par Marine Kéméré. Vous avez entendu les voix de René Grezard, Guillaume Santou, Pascal Anger et Isabelle Césari. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Léna Coutreau est la productrice d'Émotion, accompagnée d'Elsa Berthaud. Et la supervision éditoriale était assurée par Maureen Wilson. À bientôt!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.